RCC, l'ITV Calvez, animé par François Colombani. François, bonjour.
Bonjour, bonjour Anto, bonjour chers auditeurs. Comment ça va Anto ?
Écoute bien, avec ce joli temps.
Oui, on est un peu épargné ce coup-là. Alors, aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Noël Toz. Noël Toz qui est manager du FC Balagne, fraîchement débarqué dans notre belle région. Tout d'abord, Noël, comment ça va ?
Très bien, très très bien.
Ouais. Alors, avant de commencer sur ton parcours qui est assez atypique, je pense que les gens vont être surpris. Cette arrivée au FC Balagne, alors il y a un entraîneur qui se désiste, comment ça se passe ? Comment on te contacte ? Qu'est-ce qui te fait venir ?
Alors ça c'est une histoire rocambolesque parce que moi je dois absolument re-signer dans le club où j'étais, avec qui j'ai joué la Coupe d'Europe, puisqu'on a joué la Coupe d'Europe, on a perdu à Guimarães la Coupe UEFA avec au Luxembourg avec la jeunesse d'Esch. Et il s'avère que avec le Covid, les rentrées d'argent ne se font pas dans le club. Et le président me dit: Noël, tu connaîtrais pas un repreneur ? Et j'avais dans mes contacts une ou deux personnes qui voulaient reprendre un club au Luxembourg, parce que c'est très intéressant d'être au Luxembourg, dans la mesure où, quand on finit dans les quatre premiers, on joue l'Europe. Alors qu'en France, je veux dire, pour un club qui est de niveau national, ou national 1 ou des deux, avant de jouer l'Europe, il faut du temps. Et donc, je trouve un repreneur, je travaille avec eux sur la reprise pendant 2 mois, des Grecs, et le jour de l'Assemblée Générale, ils me disent carrément, merci beaucoup Noël, va chez toi, on t'appellera. J'ai dit: comment va chez toi, on t'appellera? Et à ce moment-là, j'ai l'extraordinaire René Navarro qui me donne un petit coup de fil. Et j'étais un petit peu, moi, sur l'aspect tactique, parce que j'avais plus grand choix dans mes contacts. Il me restait Capri en Italie et j'avais rien d'autre. Et j'avais aussi Cherbourg, parce que Cherbourg, c'est un club de cœur aussi. Et René me dit: voilà, on a eu un gros déboire, un entraîneur qui devait venir chez nous, qui est parti, et qui nous a laissé en plan, on est un peu dans l'expectative, on est un peu perdu, est-ce que vous connaissez bien David Carré, d'où qui est un de vos amis, est-ce que vous seriez intéressé de venir ? Et René a été tellement convaincant, René a été tellement extraordinaire, et d'ailleurs il l'est toujours, que j'ai dit oui, je vais venir. Et il m'a appelé le samedi matin, ou le samedi à midi, le dimanche midi, j'étais en Corse, du Luxembourg. Donc j'ai traversé la France, j'ai pris ma valise, et voilà, je suis venu. Et depuis, j'ai rencontré des gens assez extraordinaires, Paul Firoloni, qui est le président en titre, qui est quelqu'un de succulent, d'extraordinaire. Mais ce qui est fabuleux en Corse, c'est cet aspect familial, cet aspect humain. Je crois qu'il y a peu de clubs dans ma carrière où j'ai rencontré des gens comme ça. Et c'est la Corse, et c'est magnifique. Et alors c'est sûr que c'est pas évident pour moi. C'est vrai qu'il y a des jours, je me dis: mais qu'est-ce que je fais là ? Mais c'est humainement. Et puis ils ont tellement d'espoir en moi que, et puis moi je vais tout donner pour avoir ce titre de champion de Corse, quoi.
Alors du coup, parce que c'est vrai, il y a la Covid qui a un peu contrarié les plans de préparation, un peu contrarié les plans peut-être aussi au niveau de faire venir des joueurs, de pouvoir préparer au mieux cette saison. Comment on aborde tout ce protocole sanitaire, toutes ces choses-là quand on manage un club ?
Bah d'abord il y a l'expérience.
Parce que c'est inédit quand même.
Oui. D'abord, il y a l'expérience. L'expérience vous fait avoir une hauteur d'esprit et un bon sens un petit peu différent. Le Covid ou la Covid, je sais pas comment dire, ça a chamboulé tout le football. Ça a chamboulé tout le football. Mais finalement, ça n'a pas tant chamboulé que ça le football amateur. Ça a chamboulé le football de haut niveau, mais le football amateur, pas tant que ça. Je pense qu'ils ont pu préparer. Ils savaient que financièrement, ça allait être dur. Et d'ailleurs, ils se battent tous les jours pour aller chercher de l'argent, les dirigeants, les présidents, parce que on sait que c'est un peu le nerf de la guerre. Et ils ont fait une équipe qui était plus que correcte, je pense, pour démarrer la saison. Après, dans ma carrière, on m'a souvent appelé un peu comme Roland Courbis, hein, c'est-à-dire que quand on est en difficulté, d'abord on essaye d'avoir Roland Courbis et après on essaye d'avoir Noël Tosi. J'ai souvent été appelé pour prendre des clubs où il y avait déjà un recrutement, les joueurs étaient déjà sur place et on pouvait pas recruter. Donc c'est assez facile de m'adapter à ça parce que j'ai cette expérience dans ma carrière d'entraîneur. et j'ai pu amener une ou deux pièces qui vont nous permettre, je pense, de faire un championnat de grande qualité. Et puis de toute façon, si mon prix c'est pour gagner le titre, si c'est pour finir troisième, ils pouvaient mettre Maurice Strumpegatz à ma place. Hein.
Ah oui, pour le coup, en plus démarrage en trombe, je crois 4 matchs, 4 victoires.
Oui, 5.
5 matchs, 5 victoires, j'en avais omis, ouais. omis une.
Et, plus tous les matchs amicaux vaincus. Hein.
En plus. Ouais. Et là, on va se projeter. On est sur un cinquième du championnat. On va dire, si on reste sur cette dynamique-là, le titre de champion est possible. Est-ce que tu restes?
Ah, ça c'est une belle question. Moi, j'ai fait beaucoup d'efforts pour venir. J'ai fait beaucoup d'efforts. René sait que je voulais pas qu'ils revivent un petit peu ce qu'ils ont vécu avec Velex. Je t'avoue quelque chose, François, j'ai eu des propositions depuis que je suis là. J'ai eu des propositions pratiquement tous les 15 jours, soit à l'étranger, soit en France, dans des clubs de national en difficulté. Toujours pareil, hein, quand on est avant-dernier ou dernier, on appelle Roland, il travaille pas à ce moment, on appelle Noël, c'est mieux. Je peux pas envisager ou dire que je serai là l'année prochaine parce que ça risque d'être difficile. Je veux dire, aujourd'hui on sait que si je suis venu, c'est pas pour l'argent. Je suis venu parce que c'est un challenge humain exceptionnel, un challenge sportif pour un Corse, pour un Bastier qui a démarré au CAB du Vieux-Port. Être champion de Corse, c'est quelque chose. Hein, j'aurais gagné la Coupe de Californie, j'aurais été champion de Corse, c'était bien comme ça. Donc à partir de là, on va pas dire non, mais on sait que ça sera difficile, quoi. Voilà.
On va revenir un peu sur ton parcours qui est assez incroyable. Donc une naissance en Algérie. Est-ce que tu conserves des souvenirs parce que tu pars relativement tôt d'Algérie, hein?
Oui, j'y suis retourné pour un challenge en Algérie, j'ai visité. Je veux dire, bon, j'avais pas de souvenirs, je suis parti, j'avais 2-3 ans, mes parents ont été rapatriés en France. J'ai pas de grands souvenirs, mais c'est un beau pays. En tout cas, c'est un beau pays de football, puisqu'on a joué avec, quand j'étais entraîneur au Maroc, j'ai joué contre des clubs algériens, et leur football est vraiment bien. C'est des passionnés.
C'est technique, c'est passionné.
C'est passionné, c'est vivant. Nous, on a failli être éliminés par Sétif avec le WAC. Tous les clubs sont bons. Hein. On ne sait jamais quel est le club qui va être champion d'Algérie. Alors, on sait qu'il y a les deux clubs d'Alger, le SMA et l'autre club, le Mouloudia. Ils jouent devant 90 000 personnes le derby. Donc, c'est quand même un pays de football. Hein. Et puis, Coupe d'Afrique des Nations quand même. Hein. Voilà.
Alors, du coup, la culture foot, c'est de famille?
Oui, mon père était gardien de but du FCCB à Bastia. Je veux dire, c'était un personnage en Corse, puisque son surnom c'était Stripa. Stripa, pourquoi? Parce que quand il faisait la route de Ponte Lecce, il arrivait pour jouer. Alors à l'époque, à la place du marché, il y avait le soir à 18h, il jouait au foot. Il mettait des poteaux en bois et il faisait un match de foot. Et lui, il arrivait, c'était 18h15, 18h20 parce qu'il travaillait sur la route de Ponte Lecce. Et donc, quand il venait au marché, on lui disait, non, on est complet, tu joues pas. Alors, il disait, oh, c'est une Yogumika, Stripuallo. il avait un couteau, il voulait éclater le ballon, il y a personne qui jouait. S'il jouait pas, il jouait. Alors, il le mettait dans les buts et c'était un super gardien. Enfin, à l'époque, il paraît que c'était un super gardien. Tous ceux qui l'ont rencontré m'ont dit, c'était vraiment un personnage, quoi.
Donc, du coup, tu as poursuivi ça parce que en tant que joueur.
J'étais gardien, bien sûr. Je pouvais pas faire autre chose. Si j'avais vu le jouer l'avancante, ils m'auraient enlevé les chaussures.
Et tu as fait centre de formation tout le processus?
Oui, j'ai fait Avignon, mais très vite, on s'est aperçu que j'étais doué pour le management et pour mener les hommes, puisque j'étais capitaine tout le temps de toutes mes équipes. Et à 24 ans, l'entraîneur du SCO d'Orange, qui s'appelait André Moulon, est parti entraîner Avignon. Et j'ai le président, qui s'appelait Monsieur Dubordeaux, qui est venu me voir, il me dit, bon, t'as passé ton diplôme, toi, deuxième degré, là, tu l'as eu, tu as une grande gueule, tu vas faire entraîneur l'année prochaine. Donc, j'ai été entraîneur-joueur à 24 ans. Ensuite, à 26 ans, j'étais entraîneur du centre de formation de Grenoble. Et à 28 ans, j'étais le plus jeune entraîneur français, entraîneur en professionnel à Grenoble, à 28 ans. Voilà. Et donc, depuis.
Donc, du coup, même en tant que joueur,
J'ai pas joué beaucoup.
Parce qu'au bout du compte, tu passais quand même tes diplômes en même temps que, en même temps que tu jouais.
Toujours aussi cette passion de gérer, de coacher, d'entraîner les jeunes, les moins jeunes, etc. En sachant que je suis plus doué quand même pour les équipes professionnelles que pour la formation, parce que même si j'ai une coupe Gambardella à mon actif avec Grenoble, Un jour, un joueur m'a dit, coach, quand on est entraîné par vous au centre de formation, on a du mal à être entraîné par Victor Svenka. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, parce que vous nous mettez dans un cocon, vous avez votre façon de faire, etc. Et après, quand on trouve autre chose, on a du mal à s'exprimer. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, je ferai plus jamais de formation. C'est-à-dire que je suis pas fait pour être un formateur. Je suis fait pour être un entraîneur pro. Je suis fait pour être un entraîneur d'équipe une. Donc, à partir de là, j'ai arrêté à 28 ans de faire de la formation.
Alors, moi, j'ai une question parce qu'aujourd'hui, le football a pris une ampleur incroyable. Et on est un peu sur la tranche des anciens joueurs entraîneurs.
Ouais.
Et est-ce que ça, toi, à ton époque, ça t'a un peu fermé des portes, le fait de pas avoir eu une carrière?
Non, entre guillemets, parce que moi j'étais un bon joueur, j'étais un bon joueur de Ligue 2, de 3e division, et je suis passé très vite entraîneur. 24 ans, c'est incroyable. Je veux dire, après, une fois que tu t'es engagé dans cette voie-là, tu peux plus reculer. Mais il y a quelque chose d'important. Je vais te donner le nom de mes trois premiers entraîneurs et tu vas comprendre pourquoi je pense que ça y a fait beaucoup. Le premier entraîneur, quand j'étais au FC Carpentras, s'appelait Roger Piantoni. Le deuxième entraîneur, toujours au FC Carpentras, s'appelait Marian Wisniewski. Et le troisième, quand je suis parti de Carpentras à Avignon, c'était Albert Batteux.
Alors Piantoni, c'est le grand Reims.
Voilà. Voilà, Wisniewski, c'est le grand Reims, l'équipe de France. Et Batteux, c'est un des plus grands entraîneurs français. D'ailleurs, c'est quelqu'un pour qui je voue une admiration incroyable, comme Paul Orsatti en Corse. Je veux dire, ce sont des gens qui avaient 20 ans d'avance. Ils avaient des vues futuristes, mais complètement incroyables.
Et, sur le jeu ou sur le management?
Surtout. Paul, surtout. Paul, il me faisait jouer libéraux, il mettait sa défense à 40 mètres, il me faisait jouer libéraux à 25 mètres. Batteux, il avait des visions aussi complètement différentes. Non, c'est des gens qui ont fait avancer le football. Hein. Et puis, par exemple, Paul Orsatti, personne ne le sait, mais c'est le seul entraîneur professionnel qui a le troisième degré tronc commun. Ils sont deux en France. Il y a 14 personnes qui l'ont. Il y a deux footballeurs, Georges Honoré et Paul Orsatti. Donc, c'est vous dire la qualité intellectuel de cet homme, quoi.
D'accord. Alors, très vite, donc, tu coaches.
Oui.
Et au gré, parce que ça va te suivre toute ta carrière, finalement.
Ouais.
Au gré des rencontres, au gré des autres, tu te retrouves aux États-Unis.
Ouais.
Dans les années 80.
Alors, oui, 90. Et je vais expliquer, parce que c'est drôle, parce que je suis à Quimper à l'époque, et Quimper n'a plus d'argent. Il dépose le bilan. Et je vais chercher mes affaires. Je mets tout dans un carton et 2-3 ans auparavant, j'étais ami avec Serge Maisonnès qui m'avait envoyé voir un match au Silverdome de Nouvelle-Orléans. Et là, c'était un match entre les États-Unis et le Canada. Et là, j'étais assis à côté d'un gars qui s'appelait Kevin Campbell. Et ce Kevin Campbell m'a dit, si un jour je monte une équipe de foot, parce que on peut très bien acheter une franchise à la Nouvelle-Orléans et la mettre en Californie.
Comme en NBA,
voilà,
ouais,
on
même
peut
principe.
Faire comme on veut. Et il m'a dit, écoute Noël, si jamais un jour je prends une équipe, je te prends comme entraîneur. Parce qu'on a vraiment échangé pendant 2-3 jours ensemble et ça s'est super bien passé. Et donc quand je vais chercher mes affaires à Quimper, dépôt de bilan, plus d'argent, un peu dans la dèche, quand je vois que il y a un rouleau de fax qui est passé en dessous. Je vois que le fax était en fin de route et il y a un petit rouleau qui est passé en dessous. Je vais chercher le rouleau et là, je défais le rouleau et qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois que c'est une proposition pour aller entraîner les Sacramento Scorpions pour moi. C'est-à-dire que je finissais une histoire avec le Stade Quimperois où il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien et on me proposait un contrat extraordinaire pour partir à Sacramento. Je suis parti à la nage.
Ça apparaît un peu... C'était très intéressant financièrement.
Oui.
Ouais.
Ouais. Parce que déjà le dollar était à 8 francs hein,
ouais.
À l'époque, 8 francs 70 et non c'était vraiment bien et puis c'était les prémices du football. On jouait des fois sur des terrains de baseball où ils mettaient des buts. On jouait sur les terrains universitaires. C'était pas comme maintenant, etc. C'était pas aussi bien organisé que maintenant. Donc quand on a commencé à travailler, pratiquement, j'étais le premier entraîneur français à partir là-bas. Quand ils ont vu cette méthode un petit peu différente, ça a changé beaucoup de choses. Et puis il y a eu quelque chose qui a été assez extraordinaire, c'est qu'ils connaissaient pas du tout. C'était les combinaisons sur coup de pied arrêté. et on marquait à tous les matchs.
Ah oui, alors ça c'est ta patte entre guillemets.
Ah oui oui, ça c'est ma patte, oui. Ça c'est ma patte, je revendique ça et puis ben tout le monde le sait quoi. Je veux dire même Roland.
On approche des 60%.
Ouais, ouais.
On approche des 60% de buts ouais. marqués sur coup de pied arrêté quand tu prends une équipe.
On marque pratiquement actuellement à tous les matchs sur coup de pied arrêté.
Alors, c'est quoi? C'est bon, je suppose que c'est du travail, mais ça vient comment cette idée-là? On se dit, coup de pied arrêté, c'est une arme qu'il faut travailler, ou c'est vraiment par plaisir de travailler des combis?
Non,
ou de...
non, c'est pas par plaisir. C'est que aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des zones sur les coups de pied arrêtés qui sont délaissées un peu par les défenseurs. On s'aperçoit aussi qu'il y a peu d'équipes qui combinent, qui ont des stratégies, qui ont des fausses pistes. Donc à partir de là, il faut l'exploiter. Et nous, on l'exploite pleinement, surtout avec le FC Balagne. Surtout, ils adorent ça. Ils adorent ça.
Oui, parce que je vois, sur corner, les deux dernières révolutions. Enfin, les dernières révolutions. Il y a eu le fait de mettre Zizou au premier contre le Brésil parce qu'il y avait une faiblesse du marquage lors de la finale. Et il y avait la technique de la République tchèque à l'Euro 92, il me semble, ouais. 96, c'est-à-dire de s'aligner tous les uns derrière les autres pour exploser plus ou moins un peu partout.
Ça c'est je veux pas être prétentieux, mais si je vous le dis, je faisais bien avant moi ça. Ce qu'on appelait la chenille, ce qui avait été mis en exergue par les gens de la RMC, et Bribois, Gilbert Bribois, qui disait l'inventeur un petit peu de toutes ces combinaisons, c'est Noël. Et c'est vrai que depuis, j'ai travaillé dessus. On en a d'autres, etc. Et là, ça commence à marcher avec le FCB. Ça commence.
Alors ensuite, ce passage américain, quand même, qui est marqué par une réussite, plusieurs coupes de Californie.
Une coupe de Californie. On a battu 3 MLS, oui, c'est ça.
Ouais, donc c'est quand même assez extraordinaire. Retour en France
à Dijon. Accession de Dijon au plus haut niveau, j'y retournerai. D'ailleurs, j'ai une particularité, c'est que j'ai été repris 6 fois, enfin, dans 6 clubs, 2 fois. C'est-à-dire 2 fois Dijon à des périodes différentes, 2 fois Cherbourg.
Oui, donc c'est jamais finalement des divorces avec perte et fracas.
Part, non, jamais. Non, c'est pas possible. Je veux dire, de par ma nature, de par mon caractère, même des fois je pars des clubs parce qu'il faut partir, il faut savoir partir aussi parfois. Et puis parce que quand on fait ce métier en tant qu'entraîneur professionnel, on sait que la durée de vie c'est 18 mois, pas plus. Au-delà de 18 mois, il faut faire de la formation. Les cas comme l'entraîneur d'Angers ou Galtier, c'est des cas uniques. Ou Giroud, il y a quelques années, c'était des cas uniques. Aujourd'hui, quand on arrive à faire 2 ans dans un club, c'est magnifique.
Alors, quand on voit alors parce que aujourd'hui, il y a 2 écoles. Il y a l'école un peu clope avec un management très très copain, très...
C'est ce que vous croyez. C'est ce que vous croyez tous. Mais il n'y a pas plus exigeant que Klopp. Klopp, il les aime, ces joueurs. Ça n'a rien à voir.
Voilà. Et le management, plus ou moins Guardiola, très pragmatique, qui s'arrête vraiment sur la possession de balle, sur la relance, sur le truc. Il y a, entre guillemets, c'est un peu les 2 écoles qu'on dit. Le coach copain et le coach très tacticien.
Je pense pas que Klopp soit copain. Il aime ses joueurs, comme Guardiola aussi les aime. Guardiola, il dirige. Il veut que ça soit comme ça et puis c'est tout. Et Klopp leur laisse un peu plus de manœuvre dans un style un petit peu différent. C'est-à-dire que la conservation de balles pour Klopp n'est pas l'essentiel. Klopp, il peut très bien partir de derrière et mettre une mine devant et faire courir les 3 attaquants et aller au pressing. Donc c'est 2 philosophies différentes. C'est 2 philosophies sensationnelles parce qu'on parle des 2 meilleurs entraîneurs au monde, je veux dire. Mais il y en a d'autres. On a des très bons entraîneurs en France et des garçons qui sont capables d'avoir d'autres philosophies que ces deux-là. Et en fait, aujourd'hui, le métier d'entraîneur, c'est quoi? C'est 85% de psychologie, de vestiaire, de communication et de groupe. Le travail du terrain, oui, mais si vous êtes bon dans ce domaine-là, je pense que c'est rare que vous réussissiez.
Alors, ça rejoignait un peu ce que disait aussi Courbis, c'est-à-dire qu'il était plus le temps passé, et puis au fait, on était plus dans la psychologie, finalement, que dans l'essence même du football, qui est la tactique, la technique. Généralement, quand on arrive surtout dans ces sphères-là, on va pas apprendre un type à faire un contrôle, quoi. Normalement, c'est censé être acquis.
Ouais, mais c'est très lié, la tactique et la psychologie, parce que si t'as pas des joueurs qui adhèrent, comment tu peux avoir de la tactique dans un groupe? C'est pas possible. Donc il faut essayer de les faire adhérer. Et c'est vrai que les coups de pied arrêtés, c'est une forme de travail qui permet de faire adhérer le groupe d'abord sur une des stratégies arrêtées et après sur des stratégies en mouvement. Si tu veux, aujourd'hui, entraîner, c'est un art, quoi. Je veux dire, mais on a des bons entraîneurs. Il y a des gars qui sont peu connus et qui sont assez extraordinaires dans ce domaine-là. La jeune génération, c'est un peu, il y a à boire et à manger. Il y a des gars qui sont des professeurs de football et ça me plaît un peu moins. Et puis il y en a qui sont innovants et ça, c'est vraiment intéressant.
Alors là, sur l'entraîneur français, est-ce qu'il y en aurait deux ou trois que tu t'inspires, mais tu retirais en disant voilà, là, ça fait vraiment du bon boulot. Je sais qu'en ce moment, on parle beaucoup de celui de Rennes. Rennes.
Il a quand même un passif intéressant, ce garçon. Il a le plus brillant des formateurs du football français comme père. Guy Stéphane, c'est extraordinaire. Je veux dire, moi, je peux en parler puisque c'est quand même un de ceux qui m'a formé. Guy Stéphane, c'était extraordinaire. Alors, il a formé des illustres inconnus comme moi. Alors, avec son fils, il faut imaginer. Oui. Bien sûr, il a du talent. Bien sûr, il a du talent parce que Rennes, si on réfléchit, personne n'a réussi à Rennes.
Oui.
Pas plus Gourcuff, Cantonetti, qui que ce soit, personne n'a réussi à Rennes. Et lui, il y arrive. Donc, c'est qu'il a quelque chose de plus. Ce quelque chose de plus, qu'est-ce que c'est? D'abord, la formation, son père. Et le deuxième, il a été entraîneur du centre de formation. Donc il a acquis toutes les techniques de communication, toutes les stratégies, toutes les notions tactiques. C'est-à-dire que quand on est formateur, on doit tout connaître et tout adapter. Donc à partir de là, aujourd'hui, je pense que ça sera certainement un des meilleurs entraîneurs français. Après, il faut bouger. C'est-à-dire qu'il est dans un contexte qui est particulier, et à Rennes depuis une dizaine d'années. On l'a vu avec Giroud, on en parlait tout à l'heure. On l'a vu avec des garçons comme Le Mignan, tout ça, qui était le super entraîneur de Vannes. Et dès qu'il est sorti de Vannes, il n'a jamais réussi. Il y a des tas d'exemples comme ça, on en connaît plein. Je veux dire, lui, il a vraiment quelque chose de plus. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Ok. On est à Dijon. Après, il y a plusieurs rebonds. Donc, comme tu dis, généralement, tu restes entre
18 et 24 mois. Ouais. Parce que souvent, j'arrive en milieu de saison. Hein. C'est vrai qu'on vient me chercher parce qu'un club est à l'agonie, ils n'y arrivent pas. Et voilà. Et moi, j'y arrive.
Et il y a le poste de sélectionneur.
Ah oui. Ouais.
Alors là, comment on aborde ça? Parce que c'est pas la même chose qu'entraîneur au bout du compte.
C'est un boulot pour retraiter. C'est un boulot pour retraiter une semaine par mois. Bon, moi je préfère le club. Je préfère m'investir tous les jours. Je préfère entraînement presque tous les jours. Donner quelque chose dans un club, le faire progresser. Le sélectionneur, c'est un boulot de retraité, quoi.
tu développes pas la même relation sûrement avec les joueurs
Non. Non, c'est pas pareil. C'est un match par mois. Bon, en plus, j'ai été sélectionneur en Afrique dans un contexte ultra particulier. C'est à la fois magique, beau, et c'est pittoresque aussi. C'est drôle. Je pourrais te raconter des anecdotes jusqu'à demain matin. On n'aurait pas assez d'antennes. Mais c'est vrai que l'Afrique, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis alors, quand on est sélectionneur en Afrique, là, c'est vraiment quelque chose.
C'est vrai qu'on doit, toucher le summum du respect de
oui, c'est bien, c'est passionnant. Et puis il y a beaucoup d'entraîneurs comme Giresse, Renard, etc., qui ont fait leur carrière en Afrique, hein. Beaucoup d'entraîneurs français
avec réussite, en plus, ouais.
avec réussite. Ouais, Hervé, il a la fibre africaine, je crois qu'il reviendra jamais en France.
Oui, les passages ont été compliqués.
Oui, mais c'est pas pareil, c'est complètement différent. En France, en Afrique, on peut être directif sans plus, et on est écouté. En France, si on est directif et qu'il n'y a pas autre chose à côté, qu'il n'y a pas la psychologie, qu'il n'y a pas la relation, qu'il n'y a pas la hauteur d'esprit, qu'il n'y a pas le bon sens, ça passe pas.
Alors, on dit souvent que toi qui es entraîné partout dans le monde, on dit souvent que le joueur français, quand il sort du centre de formation, est un joueur qui est très bon, mais qui est compliqué à gérer. C'est un peu ce qui se ressort, c'est-à-dire quand il part du championnat français pour jouer ailleurs, ils prennent une envergure différente, puisque là, ils acceptent des charges de travail qu'ils feraient peut-être pas nécessairement en France. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que le joueur français
compliqué? C'est pas une vérité absolue, non. Moi, j'ai entraîné des grands joueurs, ils étaient pas forcément compliqués. pour prendre l'anecdote de Youri Djurkaev qui sortait pratiquement tous les soirs, il avait un escabeau sous son lit. Il faisait le mur par la fenêtre, il allait danser, il allait chanter, il allait faire ça. Et puis, quand il jouait, il mettait un but ou deux buts par match. Et le président, il me disait, mais quand même, Noël, il a un escabeau sous son lit, il est pas sérieux. J'ai dit, oui, mais c'est un attaquant, il faut qu'il prenne des risques. S'il sortait pas, il prendrait pas de risques. Et s'il prenait pas de risques, ça serait pas un bon attaquant. Non, je pense qu'il faut... Chaque individu, chaque joueur a sa personnalité. Il faut l'entraîneur doit les comprendre. Je veux dire, on peut pas prendre un joueur et penser que c'est qu'un joueur de football. Il a sa personnalité. Il faut savoir ce qu'il écoute comme musique, savoir ce qu'il aime dans la vie, ses attirances, etc. Et là, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et c'est là que les étrangers sont beaucoup plus forts que nous. Par exemple, dans les clubs en Angleterre, on fait faire des tests psychologiques aux joueurs avant de les recruter. Quand on recrute El Hadji Diouf, c'était, je me rappelle plus quel club, c'est Blackburn Rovers qui recrute El Hadji Diouf qui a 38 ans CFA, hein, ça veut dire qu'il a 42 ou 43, on ne sait pas, et que l'entraîneur de Blackburn dit, je veux ce joueur-là parce que je lui ai fait faire les tests, il va être extraordinaire, et il a fait les deux plus belles années de sa carrière avec ce club-là. Sam Allardyce, je cherchais le nom de l'entraîneur. Donc non, ça veut rien dire. C'est une façon différente de voir les choses à l'étranger. Et on n'est pas moins con que les autres.
Du coup, comme tu as aussi entraîné le gaz.
Non.
Non.
J'ai joué.
Ah, tu as joué. Est-ce qu'il y a un profil du joueur corse? Est-ce qu'il se détache, toi qui as été dans de nombreux endroits, qui a fréquenté de nombreux joueurs, de nombreuses nationalités? Est-ce qu'il y a un ADN particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le différencie?
Non, je crois qu'on est une île, il faut pas l'oublier. Et dans une île, on n'est pas ouvert à tout ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, on a un état d'esprit interne, un état d'esprit insulaire. Et c'est ce qui fait la force du joueur corse. C'est cette grinta, cette volonté, etc. Et souvent, on s'aperçoit que certains joueurs qui partent faire un centre de formation en métropole, quand ils reviennent, ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Et c'est là qu'ils commencent à s'exprimer d'une façon meilleure. Et puis tous les Corses qui partent sur le continent aussi. Il y a des joueurs corses partout dans le championnat de Ligue 1, Ligue 2, qui sont assez extraordinaires. Non, je pense que ça, c'est un coup de tampon corse, il faut le garder. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel.
Alors, en dehors de ta vie de joueur et d'entraîneur, il y a quand même des choses qui sont assez notables. C'est-à-dire qu'il y a, tu es écrivain,
oui,
acteur,
oui,
et tu as aussi commenté sur TPS Star, il me semble.
Pas
à l'époque.
Que TPS Star, Canal Plus, C8. J'ai plus de 300 matchs. Ouais.
Qu'est-ce que tu retires de ces expériences-là? C'est des envies. Tu as pas envie de. Moi, j'ai l'impression que des fois, tu as pas envie de te laisser enfermer dans un carcan et au gré des peut-être des rencontres, des trucs et tout, dis tiens, ah ben ce serait pas mal.
Oui, c'est un petit peu ça. Oui, c'est un peu ce que tu dis. J'ai peut-être eu cette vie dans la même vie, mais ça m'a servi, hein, de commenter les matchs.
Ça t'a servi ou ça t'a pas ou ça t'a peut-être desservi? Alors, on s'est dit allez.
Ça, ce qui m'a desservi, c'est l'écriture et le théâtre. Ça c'est sûr, ça m'a desservi parce que
c'est trop prenant.
Non, c'est pas ça. C'est qu'on a dit oh bah lui c'est un saltimbanque, c'est un poète ou c'est un intellectuel, je sais pas ce qu'on a dit. Et ça m'a pas permis de m'affirmer en Ligue 1. Voilà, sûr. Ça je suis sûr que d'avoir fait tout ça, on dit c'est pas facile de prendre un entraîneur qui fait du théâtre, qui dit des conneries, qui écrit, etc. C'est pas facile. Moi je reconnais. Je suis sûr qu'Olas m'aurait jamais recruté. Il y en a d'autres qui auraient pu me recruter et qui m'ont recruté d'ailleurs, mais Olas, il m'aurait pas recruté parce que je suis pas l'archétype de l'entraîneur normal. Voilà. Après, entraîneur normal, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Si c'est celui qui arrive à 7h du matin au club, il part à 23h et vit football tout le temps. Ouais, j'ai eu envie de faire des choses à côté. Ça a été mon hobby, le théâtre, l'écriture. Je suis un homme de spectacle. Je vais voir tant qu'on pouvait y aller, j'allais voir 30, 40 spectacles vivants par année. J'ai un fan de spectacles vivants, de la musique, etc. J'ai plus de 6000 vinyles chez moi. Donc, voilà, je suis différent, voilà, atypique, comme tu disais.
C'est une bulle d'oxygène pour décrocher, parce que ouais. Souvent les entraîneurs disent c'est quand même une drogue dure. Voilà, c'est tant qu'on a la tête dans le sac, on y est, mais quand ça s'arrête, ou quand il y a un licenciement, ou quand il y a un départ, le vide s'installe très vite et c'est très compliqué pour certains de décrocher, au fait.
Ben moi j'ai pas connu ça parce que quand je suis parti d'un club professionnel, j'ai jamais hésité à retomber en dessous, ou en CFA, ou ici, en R1, en Corse. Je veux dire, quand tu descends, ça te permet de te ressourcer. Ça te permet de reprendre les vraies valeurs de la vie, du football. Ici, sincèrement, je vais le répéter, mais humainement, la Corse, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Je sais pas, il n'y a pas un endroit où humainement les gens se soutiennent, sont solidaires comme ici, et dans le football en particulier.
Alors, dans l'émission, il y a deux passages.
Ah.
Voilà, il y a le passage des questions qui fâchent.
Allez, vas-y.
Alors, les questions qui fâchent. On va commencer par, on l'a un petit peu abordé, mais est-ce que il n'y a pas de regret à un moment, un refus ou une approche par un club où tu dis là j'ai merdé, j'aurais pu passer le palier plus haut.
Oui, il y a des clubs où j'ai merdé. Ouais. Par exemple à Créteil, quand je suis deuxième du championnat au 23 décembre. Et qu'à la reprise, malgré le fait qu'il y ait eu les intempéries, la tempête, etc., je passe de la deuxième à la treizième place. Je sais que c'est ma faute. Je sais que j'ai merdé, je sais que j'ai pas été bon. Mais il faut dysfonctionner pour bien fonctionner. Il faut louper pour réussir. Et l'entraîneur qui dit qu'il a tout réussi, c'est pas vrai. Et moi, j'ai analysé la situation. Je sais pourquoi j'ai pas réussi aujourd'hui. Et j'essaye de plus refaire les mêmes erreurs. Voilà. Je sais ce qu'il faut pas faire. Football, voilà.
Est-ce que tu as eu, alors souvent, moi qui étais un joueur alors très très amateur, est-ce que quand on est coach, on a des chouchous?
Ah oui.
On prend un effectif et on a des chouchous.
Bien sûr.
Oui,
bien sûr.
Tu l'avoues.
Ah ben bien sûr, bien sûr.
Est-ce qu'on se l'avoue ou est-ce qu'on essaye quand même malgré tout de faire attention par rapport à un effectif parce que ça pourrait créer des problèmes?
On le sait, mais on le montre pas. Ou alors on le montre à l'intéressé, en aparté, mais pas collectivement. Ou alors on le dit. Moi, ça m'est arrivé de dire, voilà, lui c'est mon joueur préféré, donc toi tu vas ramasser les ballons et lui il va juste s'étirer sur le côté. Donc il faut le faire avec humour. On peut le faire avec humour aussi. Et l'humour, ça sert énormément dans la communication, et surtout en football. Les joueurs adorent ça. Les OFCB, ils adorent quand je pars en vrille et que je leur raconte deux trois de fouditch.
Quoi. Ouais, mais moi quand je les rencontre, ils me disent il est super, il parle, il est toujours plein d'anecdotes, plein de. Et dernière question qui fâche.
Pour le moment, je suis pas fâché. Hein.
Non, mais, j'essaie de trouver. Après, je suis gentil. Hein, j'essaie de trouver. Est-ce que à un moment, quand tu te retourneras sur la carrière, tu te diras pas il me manque un gros club de Ligue 1 ou un top 10, on va dire, ou il me manque quelques coupes.
Non. Non, parce que je pense que j'aurais pu faire une carrière en PHA. Hein.
Ouais.
Et bon, aujourd'hui, j'ai eu cette chance d'être le seul entraîneur corse qui a entraîné sur 4 continents. J'ai eu cette chance de vivre avec des gens qui m'ont apporté des choses merveilleuses. Moi, j'ai essayé d'apporter tout ce que je pouvais. En tout cas, il y a quelque chose dont je serai toujours fier. C'est quel que soit le club avec lequel je me suis engagé, je me suis toujours identifié au club. Et je me suis jamais mis moi en avant, mais j'ai toujours préservé les intérêts du club et des institutions. Pour moi, aujourd'hui, le FC Balagne, c'est au-dessus de Noël Tosi, c'est au-dessus de tout ce que je peux faire. Et je vais tout faire pour laisser une trace importante dans ce club et les amener le plus haut possible. Pour moi aujourd'hui, j'ai l'écusson du FC Balagne, l'écusson de la Corse sur le cœur, et je vais tout faire pour mon club. Voilà. Et ça, c'est mieux que d'avoir des regrets. Des regrets, il faut pas en avoir. Ouais. Regrets sans repentir, voilà.
D'accord. Alors, on va passer aux questions flash. Alors, les questions flash, c'est des petites questions pour en savoir un tout petit peu.
Alors,
plus.
Vas-y.
Elles sont un petit peu bêtes. Hein.
Non, il n'y a pas de questions bêtes.
Est-ce que tu préfères penser ou ressentir?
Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ça, c'est une bonne question. Alors, penser ou ressentir, il faut répondre vite, hein, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Il faut répondre assez vite. Allez, on va dire ressentir.
Tu es plus SMS ou coup de téléphone?
Ni l'un ni l'autre.
Plutôt lundi ou vendredi?
Samedi et dimanche.
Jour de match.
Voilà.
Plutôt passé ou futur?
Futur.
Plutôt bosser tôt ou bosser tard?
Les deux.
Se dépasser ou dépasser les autres?
à se dépasser.
Boire ou conduire?
je vais dire conduire.
Alors, si tu étais un trait de caractère, lequel serait-il?
Ah, si j'étais un trait de caractère, je serais l'adaptation.
Une qualité?
L'enthousiasme.
Un défaut?
Susceptible.
Un animal?
Le chat ou le chien.
Est-ce que tu as un héros de fiction ou de vie réelle? Ou même peut-être dans le football aussi.
Un héros dans le football? Il y en a tellement que ça serait... Allez, je vais dire... Ah non, il y en a trop dans le football, non. De fiction, oui, peut-être un peu, puisqu'on sort un petit peu du football. Un héros de fiction, Superman, parce qu'il vole, ouais.
Ce que tu détestes le plus chez l'homme? Alors, ça peut être chez tes joueurs aussi, hein.
L'hypocrisie.
La chose dont t'es le plus fier? Bon, je crois qu'on l'a un peu abordé, hein.
Ouais.
Une phobie?
J'en ai pas.
Pas de phobie?
Non.
Souris, serpent, tout ça?
Rien du tout. Ah. J'ai peur de rien.
Plutôt Zizou ou Mbappé? Deux champions du monde, deux écoles différentes.
Ah. Mbappé, c'est pas mal, mais Zizou, c'est une légende déjà. Mbappé, pas encore. Donc Zizou.
Alors, est-ce que on sait que les footballeurs, en tout cas moi, je l'étais, mais alors je pense que c'était pour satisfaire mon côté, comme j'étais mauvais, quand j'étais bon, j'essayais de conserver les trucs qui. Est-ce que tu as un objet qui te suit, parce que on dit souvent les footballeurs, ils sont voilà, ils ont un objet fétiche, ils sont superstitieux. Il y a zéro superstition, il y a pas d'objet.
Si, je suis très superstitieux, mais par exemple. Je refais les mêmes gestes, je remets les mêmes couleurs sur mes feuilles quand je prépare mes feuilles, mais la superstition, non, pas vraiment. Un petit peu, mais très très léger quoi.
Comme tu as pas mal voyagé, est-ce qu'il y a un truc qui t'a toujours suivi au gré de tes pérégrinations au bout du compte?
Non, mais je peux te raconter une anecdote qui va te plaire. Un jour, on joue contre le Tchad d'Alain Giresse. Et on bat Alain Giresse. Et Alain Giresse me raconte l'anecdote quelques mois plus tard quand on se rencontre à Kerfontaine. Et en fait, on était 0-0. J'ai fait rentrer les deux remplaçants dans les 10 dernières minutes et on gagne 2-0 au Tchad. Et il avait fait venir un marabout dans le vestiaire qui lui avait pris une corde et qui avait fait 11 nœuds. Il avait jeté la corde au milieu du vestiaire et il a dit « Voilà, j'ai amarré les joueurs du Congo ». Vous pouvez pas perdre. Et après, à la fin du match, il dit, oh, alors, ils avaient amarré. Il dit, oui, mais j'avais oublié les deux remplaçants.
Écoute, Noël, on arrive sur le terme de l'émission.
Ouais, merci.
Je te remercie d'être passé et de nous avoir.
Merci à vous de m'avoir reçu. C'est toujours un bonheur.
Des anecdotes et ta bonne humeur, surtout. On va dire, alors. Merde, pas bonne chance, on va dire merde pour le reste du parcours en championnat. Et
François, t'as pas une histoire? Une histoire drôle?
Une petite histoire? Ah. Alors, il y a un litige là-dessus. Il y a un litige là-dessus parce que on m'a dit que mes histoires étaient soit trop vulgaires ou soit pas drôles, donc je me suis vexé, donc je m'auto-censure. Voilà. Alors je les cite, hein, c'est Paul Souzogne, tu vois. Et ma maman aussi, qui m'ont dit, voilà, tu n'es pas drôle, et c'est vulgaire.
Je trouvais ça, c'était une signature à la fin de l'émission.
Du coup, vu que maintenant tu me relances là-dessus, donc à la prochaine, ce sera Lisandro Mariani, donc le vice-président du CRAP 15, qui a repris le club de rugby de Loum. Au fin fond, parce qu'au bout du compte, il était vraiment très très mal, le club, qui l'a fait revivre, qui sont à 4 montées successives. Donc, du coup, il viendra un peu nous parler de son parcours et surtout du CRAP 15, qui a lui aussi besoin de soutien. On rappelle qu'avec la Covid, tout ça, c'est assez compliqué pour les clubs de sport. Et donc, il viendra nous parler de tout ça. Noël, je te remercie.
C'est moi qui vous remercie à tous ici de votre accueil et de votre gentillesse aussi.
Et à bientôt.
À bientôt.
capable.